Bien, bonjour à tous. Merci Thomas pour la lecture des Saintes Écritures et pour la prière. L'apôtre Paul, dans cette première épître aux Corinthiens, dans un premier temps, va en quelque sorte réorienter le regard des Corinthiens, des chrétiens corinthiens, qui ont une fâcheuse tendance à faire partie de mouvements, à dépendre de tel ou tel personnage chrétien. Vous le savez, dans le premier chapitre, à partir du verset 10, certains se disent « nous, on est de Céphas, d'autres sont de Paul, d'autres de Christ ». Enfin, voilà que les chrétiens se mettent, pour certains d'entre eux, pour ceux qui ne regardent pas à Christ, commencent en quelque sorte, à dépendre de certains chrétiens, d'hommes, de référence, d'hommes spirituels, mais néanmoins quand même des hommes. Et donc Paul va à un moment donné dire à cette église de Corinthe, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Pourquoi ? Parce que dans l'église de Corinthe, certains se réclamaient, j'ai été baptisé par un tel, c'est-à-dire une espèce de référence spirituelle particulière, et en cela, sans s'en rendre compte, au lieu de dépendre directement du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de s'attacher intellectuellement, affectivement, de tout son cœur et de toute son âme au Christ, voilà qu'il partageait en quelque sorte la personne de Christ avec un frère éminent qui les avait baptisés. Ça frôle, sans qu'on s'en rende compte, mais ça frôle l'idolâtrie. À partir du moment où on ne se tourne plus uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ et que quelque part on fasse référence à un être humain, c'est ce que Dieu conteste depuis toujours, hein. Je suis le seul Dieu, vous ne devez penser et dépendre que de moi. Alors, vous voyez avec quelle subtilité l'ennemi de nos âmes, mais aussi l'œuvre de la chair, le péché, nous pousse, sans qu'on s'en rende toujours compte, et bien dans quelque chose qui s'apparente à, on pourrait dire, à de l'idolâtrie. C'est-à-dire on va partager avec Dieu et une autre personne, quelques centres d'intérêt. Non, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est notre seul centre d'intérêt. Alors il va dire cela pourquoi ? Parce qu'il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Alors voilà qu'il oriente le cœur des Corinthiens vis-à-vis de cette mission générale qui est adressée à tous les chrétiens, la mission de partager l'Évangile. Pourquoi ? Parce que partager l'Évangile d'une manière, on va dire, régulière, je pensais quotidienne, ce qui serait l'idéal, mais d'une manière régulière, ça va nous éviter de nous disperser et ça va nous amener à nous concentrer sur Jésus-Christ parce qu'on va se mettre à parler du Christ et on va ressentir en évangélisant, en partageant notre foi, on va ressentir cette présence du Seigneur manifestée par son Esprit Saint, et cela va en quelque sorte canaliser nos pensées vers la personne du Christ. Et il dit aussi, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La sagesse du langage. À cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs dans le monde non chrétien, les philosophes avaient une place importante, et vous avez pu remarquer que les philosophes, en tous les cas en Europe et en particulier en France, ont retrouvé un certain aura dans notre monde moderne, puisqu'ils prétendent par la philosophie nous faire connaître le bonheur. Et donc c'est une opposition permanente. La pensée humaine qui va se traduire par la sagesse, donc de là la philosophie, hein, Sophia, la sagesse, et puis la pensée révolutionnaire de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Et Paul va dire, je ne prêche pas la croix de Christ avec la sagesse du langage, mais j'annonce le message parce que le message en lui-même est porteur d'une puissance. C'est la parole, la semence incorruptible de Dieu. Et donc il y a dans l'annonce de l'Évangile, dans le partage de notre témoignage, quel qu'il soit à partir du moment où nous parlons du Christ et de ce que le Christ a fait dans nos vies, il est porteur ce message en lui-même d'une puissance de transformation, d'une puissance qui va venir heurter les raisonnements humains pour ensuite les convaincre, par la puissance du Saint-Esprit, les convaincre de la véracité de l'annonce de l'Évangile. Et donc Paul va dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie pour les Juifs que la croix, c'est une folie pour les Grecs, la croix. Ça ne ressemble à rien. Pour les Juifs, c'est une véritable malédiction que de mourir sur le bois. Et pour les philosophes grecs, ceux qui pensent avoir une connaissance supérieure, eh bien, c'est également une folie. Un Dieu fait homme qui va ensuite mourir sur une croix, c'est quelque chose d'impensable. Et c'est très intéressant de voir dans le livre des Actes, au chapitre 17, quand Paul se promène, parce qu'il attend ses collaborateurs dans la ville d'Athènes, le livre des Actes nous indique qu'une série de philosophes, au verset 18 du chapitre 17, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Voilà que Paul s'adresse à des intellectuels. Vous savez, c'est pas rien à l'époque, hein, c'est quelque chose de remarquable. Et les uns disaient, donc parmi ces philosophes, que veut dire ce discoureur ? Et d'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Donc il y a une rencontre qui s'effectue, que Dieu permet entre l'apôtre Paul et des philosophes. Et puis, à un moment donné, à la fin de ce chapitre 17, Paul va dire quelque chose d'assez percutant pour des sages, puisqu'il va tout simplement rappeler au verset 29, « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » C'est étonnant parce qu'il s'adresse à des philosophes qui avaient pour idole des objets de culte, hein, des statues, des choses comme ça en or. Et puis il va rajouter quelque chose qui certainement leur a fortement déplu, c'est qu'il va s'attaquer au cœur même de la philosophie par cette petite phrase. Il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance ». C'est-à-dire qu'il est en train de dire aux épicuriens, aux stoïciens, vous êtes des ignorants d'une grande vérité. Alors, au XXIe siècle, on ne se rend peut-être pas compte de ce que ça veut dire, mais c'était remettre en cause le fondement même de toute philosophie. C'était venir à reprendre à rebousse-poil les philosophes et leur dire, vous êtes ignorants. Des gens qui se pensaient être d'une grande connaissance, d'une grande sagesse, ils leur disent, il y a des choses que vous ignorez, et c'est ce que je suis en train de vous annoncer. C'est là toute la puissance de l'Évangile, justement, et dans notre témoignage aujourd'hui, au XXIe siècle, rien n'a changé par rapport à ce que je viens de lire dans le livre des Actes. Nous nous heurtons, nous aussi, à une forme de sagesse, d'incompréhension. Les gens nous disent, mais vous êtes complètement fou avec votre histoire de Jésus et de l'Évangile et tout ça. Et c'est toujours la même histoire. Mais Dieu va utiliser cette prédication de la croix, qui est une folie, pour ensuite faire son œuvre de salut avec le temps. Je vous l'ai déjà dit ici, je crois, depuis toutes ces années où vous me faites l'honneur de m'inviter, comment en 1963 j'ai eu un premier contact avec un chrétien évangélique, le premier chrétien évangélique que j'ai rencontré de ma vie, et quand il m'a raconté qu'il était né de nouveau, qu'il pouvait traverser l'avenue des Gobelins, être renversé par un véhicule automobile, qu'il allait directement dans le ciel parce qu'il était sauvé, moi je l'ai regardé avec des grands yeux ouverts et je lui ai dit, mais t'es complètement fou. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune ? Il m'annonçait la prédication de l'Évangile, cette folie. Et moi, je lui ai dit, mais t'es fou, personne ne connaît ça. Et puis, 6 ans après, le Seigneur ayant fait son œuvre, il m'a saisi pour me sauver. Donc, il m'a littéralement pris, à un moment donné, à rebrousse-poil. Il a quitté le domaine de l'échange, de la conversation, de l'argumentation, pour m'annoncer la puissance de l'Évangile. Je suis sauvé, Christ est ressuscité, toi tu vas mourir en enfer et moi je vais à la vie éternelle. Et vous voyez, c'était incompréhensible pour moi. Mais néanmoins, Dieu a choisi ainsi ce processus qui est l'annonce de l'Évangile pour sauver les perdus. Mais pas tellement sauver les perdus, Comme il est dit dans le texte, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Sauver les croyants. Alors ça a deux sens. Nous avons été sauvés parce qu'il nous a été donné de croire. Mais en même temps, on ne peut pas accéder à la nouvelle naissance sans croire. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, dit l'Épître aux Hébreux, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il y a un moment donné, on a en quelque sorte une foi qui n'est pas encore la foi qui nous sauve, puisque c'est une foi que Dieu existe, que oui, les choses ne peuvent pas avoir été créées simplement comme cela, sans qu'il y ait un créateur. Et c'est cette première foi qui va nous permettre ensuite, par la présence du Saint-Esprit, de recevoir le message de l'Évangile. Et là, de basculer justement dans la nouvelle naissance, et de basculer dans une folie. Parce que qu'est-ce que j'ai dit à ce jeune, 6 ans avant ma conversion ? Tu es fou ! Et 6 ans après, je devenais fou comme lui, parce que j'ai accepté Christ comme sauveur. Et cette acceptation de Christ comme sauveur dépasse l'intelligence humaine, dépasse la connaissance des philosophes, la sagesse de l'humanité tout entière. Et en cela, je pensais, ce matin j'étais dans une église chinoise, et je pensais à toute cette culture, riche culture asiatique des peuples d'Asie, et je me dis, mais une culture qui était bien avant l'évangile de Jésus-Christ, hein, c'est extraordinaire, aucune culture. Et c'est en cela que la culture humaine, quelle qu'elle soit, est une folie. C'est une folie par rapport à la sagesse de Dieu. Cette prétendue sagesse de l'humanité n'a jamais réglé aucun problème au niveau de l'être humain. Le péché est toujours là, la mort est toujours là, le désespoir est toujours là et la bêtise est toujours là. Et aucune culture, aucune philosophie, aucun moyen proposé n'a pu changer l'homme, sauf l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que cette folie de Dieu, qui apparaît pour une folie pour les perdus, est en réalité plus sage que la sagesse de ce monde. Vous voyez la façon d'argumenter de Paul. Dieu est en train de dire à tous ces philosophes, dont on entend encore la voix aujourd'hui, mais qu'avez-vous résolu sur cette terre ? Rien. Un des philosophes actuels, qui est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, je crois que je l'avais cité dans un des messages parmi vous, Luc Ferry, écrit dans un de ses livres actuels, récents, il dit le nouvel humanisme, parce que bon, l'humanisme est lié à la République française et au siècle des Lumières, a fait faillite avec tous les génocides, toutes les guerres. Alors voilà que c'est le nouvel humanisme. Vous savez ce que c'est que le nouvel humanisme ? C'est une phrase de l'Évangile. Il faut apprendre, nous dit le philosophe Luc Ferry avec tous ses collègues, il faut apprendre à aimer son prochain. Mais avec tout le respect que je dois à ces messieurs, en tant que chrétien, je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est écrit depuis des siècles. Et non seulement c'est écrit, mais Christ nous donne la possibilité d'aimer notre prochain, de vivre véritablement cette vie nouvelle. Alors voilà que Luc Ferry nous dit que le nouvel humanisme, c'est d'aimer son prochain. Mais vous voyez en quoi cette philosophie est une folie. Et c'est la même folie, il y a, pendant la Grèce antique, c'était les mêmes racines et rien n'a changé de ce côté-là. Alors, eux, les Juifs, ils ne cherchaient pas tellement la sagesse, parce que c'est un peuple érudit. Vous avez remarqué que les deux grands personnages des Saintes Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau, l'Ancien c'est Moïse, le Nouveau c'est Paul, sont deux intellectuels hors normes. C'est deux personnages remarquablement formés par la société, éclairés par Dieu, mais ce sont des géants au niveau de la connaissance, de la culture, de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de complexe à avoir en tant que chrétien. Ce ne sont pas les incompétents qui deviennent chrétiens, ce ne sont pas les faibles qui deviennent chrétiens, ce sont des gens intelligents qui deviennent chrétiens, qui croient. Et Dieu, au travers de ces deux grands personnages, Moïse et l'apôtre Paul, nous démontre qu'effectivement, on peut avoir toute la connaissance du monde de l'époque, de leur époque, qui était extrêmement importante. Eh bien, ils ont eu besoin de se tourner vers Dieu et d'être sauvés par Dieu. Alors, eux, les Juifs, ils cherchaient les miracles. Il fallait que ça bouge. Vous comprenez, quand vous arrivez avec un message qui dit que le Fils de Dieu est mort sur la croix, pour un Juif, ça ne correspond à rien du tout. D'abord, c'est un blasphème que Dieu est un Fils. C'est impensable pour un Juif, et pour un musulman d'ailleurs aussi. Et puis, en même temps, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui meurt? Ça n'existe pas, le Dieu d'Israël ne meurt pas, il est tout puissant, etc. Et c'est extraordinaire parce que Paul va continuer de prêcher à ce peuple la folie de la croix, la folie de la prédication, quelque chose qui heurte leur culture de plein fouet. Et beaucoup de Juifs se sont convertis dans les évangiles et se sont convertis pendant le ministère de l'apôtre Paul. Et puis les Juifs, eux, cherchent la sagesse. Et Paul dit au verset 22-23, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Voilà que nous sommes porteurs, vous et moi, dans notre faiblesse, dans les limitations qui sont les nôtres, nous sommes porteurs de la toute-puissance de Dieu par le message de l'Évangile. Et c'est un passage qui encourage les chrétiens que nous sommes, de la même manière que Paul cherchait à encourager les chrétiens de Corinthe, nos ancêtres dans la foi. Il leur dit, mais prenez conscience de ce qui habite en vous et du message que vous êtes amenés à partager en toute simplicité. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et puis, il va dire au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. » Alors ça, c'est une analyse sociologique de l'Église de Corinthe. Et on peut dire, quand on lit toutes les épîtres du Nouveau Testament, on peut dire que pratiquement, c'est l'analyse pour toutes les assemblées, toutes les églises du Seigneur Jésus-Christ à l'époque apostolique. Il y a pas beaucoup de sages, c'est-à-dire de philosophes. Il y a des intellectuels dans l'Église, hein, c'est heureux. Et il y en a eu, il y a eu de grands théologiens et de grands apologètes. Mais d'une manière générale, c'est pas la totalité des membres. Les membres de Christ, ceux que Christ a sauvés, sont des gens, comme moi, simples. Ce sont pas des intellectuels en particulier. En même temps, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de puissants, donc toujours selon la chair, c'est-à-dire des hommes qui ont ou l'exercice du pouvoir entre les mains. Il y en avait, dans le livre des Actes nous dit qu'un frère servait à la cour de l'empereur, à Rome, hein, de César, mais ce n'était pas la majorité des chrétiens. Et puis, toujours selon la chair, il n'y a pas beaucoup de nobles. C'est-à-dire de gens qui ont des titres particuliers qui font que, ma foi, on a bien de la déférence pour eux, puis au moins ça ressemble à quelque chose. Je me souviens de cette chrétienne qui est née de nouveau, hein, et qui est toujours à l'église de Paris Nation, mais il y a bien des années en arrière, comme elle, à cause de son travail, elle fréquentait les milieux intellectuels parisiens, travaillant chez un éditeur, un grand éditeur français. Alors un jour elle me dit... Mais qui sommes-nous? On n'est rien du tout. Intellectuellement parlant, elle disait, on n'est rien du tout. Moi, je passe mon temps avec des écrivains, des artistes, je sais pas quoi. Et alors, elle avait une espèce de condescendance, vous voyez, dans le regard et dans son vocabulaire. Mais elle était profondément perturbée. Pourquoi? Elle était authentiquement sincère. Pourquoi? Parce que elle venait 5-6 heures à l'église par semaine. Mais elle passait 39 heures ou 35 heures dans le monde du travail avec des intellectuels qui n'avaient rien à faire de Dieu. Et alors elle était là entre deux mondes, vous voyez. Et avant qu'elle ne prenne de l'assurance en Christ, hein, avec les années qui se sont rajoutées les unes aux autres, dans sa foi en Christ, à cette époque, il y a 10-15 ans en arrière, elle était troublée. Elle me dit, mais qui sommes-nous? Et ça m'a rappelé cette jeune sœur en Christ. Alors là, c'est beaucoup plus vieux, c'est 43 ans à peu près en arrière, qui un jour vient me voir et puis elle me dit, mais Jean, on n'est rien du tout, regarde, on descend d'un escalier, on est dans des caves, parce que c'est l'église de Nation, ce sont des caves, je vous l'ai déjà dit, des petites poignées à l'époque, on était petites poignées de rien du tout, Et elle dit, regarde, on est entouré de millions d'habitants de Paris, mais on est quoi? On est une demi-goutte d'eau dans un océan, quoi. Et je lui dis simplement, mais ma sœur, n'oublie pas que nous appartenons au peuple le plus nombreux de la Terre. Dieu a dit à Abraham, si on pouvait compter les grains de sable au bord de la mer ou les étoiles dans le ciel, ta postérité sera plus grande. Je lui dis, nous, on est un petit groupe, là. Mais on appartient au peuple, aux myriades de myriades d'enfants de Dieu que Dieu a sauvés. Vous voyez, il faut avoir cette vision, en quelque sorte, que la Bible nous donne de choses évidentes, de choses absolument certaines. C'est que c'est nous le plus grand peuple. Et on appartient à une lignée, à la lignée des chrétiens depuis des siècles, des croyants de l'Ancien Testament et des chrétiens depuis le début de l'Évangile. Voilà, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes les plus nombreux et les vainqueurs, même si dans certains cas nous sommes asservis, nos frères et sœurs sont asservis et persécutés, comme ça a été le cas en France sous Louis XIV, entre autres, mais c'est nous les vainqueurs. Donc il faut avoir cette vision, et Paul est en train de dire aux Corinthiens, mais écoutez, c'est pas parce que vous n'êtes pas, à vue humaine, vous ne représentez pas grand-chose sur le plan économique, sur le plan du pouvoir, sur le plan des titres académiques, il leur dit, mais... Dieu a fait en sorte que ça se passe comme ça. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais là, on touche à l'abaissement du Christ, à cette volonté du Fils de Dieu, pour, en obéissance et par amour pour son Père, de quitter son ciel de gloire, de revêtir un corps mortel et d'apparaître semblable à chacun d'entre nous. Là, Paul est en train, quelque part, entre les lignes, de nous faire voir la faiblesse de Christ, comprenez-moi, bien, dans son incarnation. Il s'est dépouillé, comme dit l'Épître aux Philippiens. Il était toujours entièrement Dieu, mais il s'est dépouillé de certaines choses, volontairement, pour les retrouver, évidemment, après sa résurrection. Mais c'est extraordinaire, parce que Paul est en train de leur dire, mais si vous êtes faibles, Christ est apparu dans une forme de faiblesse. Il n'avait rien pour attirer nos regards, dit le prophète Ésaïe, chapitre 53. C'est extraordinaire, quelque part, notre Sauveur et Seigneur nous a précédés dans cette faiblesse. Et pourtant, c'était la vie éternelle, comme dit l'apôtre Jean. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée, nos yeux l'ont vue, etc. La vie éternelle qui était au sein du Père, qui a été manifestée. Le Christ dans son humilité, ben c'est une partie de notre vie chrétienne. Il est aujourd'hui dans la gloire, nous pas encore. Et donc nous sommes faibles pour les gens de ce monde. Mais en même temps, étant fermés dans nos corps mortels, la plus grande puissance, puisque Paul va dire dans l'Épître aux Romains, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la dynamite de Dieu, l'Évangile. Vous vous rendez compte ce que nous possédons, ce dont nous sommes porteurs, vous et moi, la vie éternelle. Quand cet ami chrétien, en 1963, avenue des Gobelins, m'a dit, Jean, je peux mourir, je vais directement dans le ciel, et je suis sauvé, et puis je lui ai dit, mais t'es complètement fou. 6 ans après, je suis devenu fou comme lui. Dieu m'a sauvé 6 ans après. Mais 25 ans après cette rencontre, un dimanche matin à l'église de Paris Nation, au moment où ceux qui nous visitent se lèvent pour se présenter, derrière moi, juste derrière moi, j'entends un homme qui se lève, enfin une personne qui se lève, et puis cette personne se présente et donne son nom. Elle dit, je m'appelle un tel, André Colonnette. Et moi, je me retourne. C'était ce jeune qui, 25 ans plus tôt, m'avait offert un évangile en 1963 et m'avait dit, si je meurs, je vais directement dans le ciel, je suis sauvé. Et alors je me suis retourné, et je lui ai dit, c'est toi. Alors il m'a dit, comment ça? Puis je lui explique, il me dit, Jean, t'es sauvé? Ben je lui dis, oui. Oh, il me dit, c'est extraordinaire, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, évidemment, t'es mon père spirituel quelque part, le premier chrétien que j'avais vu de ma vie. Et lui, il était là. Il avait 25 ans de plus, hein, et moi aussi. C'était extraordinaire de voir cette faiblesse, quand je lui ai dit, mais t'es fou. Et en réalité, tous les deux, lui avant moi est devenu sage. Et nous passons encore aujourd'hui, je passe encore aujourd'hui, comme chacun d'entre vous, pour un fou quand je parle de l'Évangile. J'en ai bien conscience, hein, Mais c'est extraordinaire, elle est là, notre puissance. Et alors, il encourage les chrétiens de Corinthe, et il nous encourage aujourd'hui, l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Mais Dieu a choisi, verset 27, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise. » C'est-à-dire, les gens du peuple étaient méprisés par les élites, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des gens orgueilleux qui méprisent les chrétiens que nous sommes, et qui méprisent d'ailleurs d'autres hommes, puisqu'il y a par eux, il n'y a qu'eux qui les intéressent, donc ils méprisent tous les autres. Mais voilà ce que l'apôtre est en train de dire, mais si nous sommes considérés comme des choses viles, il va dire un peu plus loin dans la même épître, nous sommes les balayures du monde, considérés comme des balayures. Vous savez ce que c'est qu'une balayure? Prenez un balai, vous avez un peu de poussière, plof, vous poussez ça dans le caniveau, c'est terminé, ça ne compte pas, vous n'y repensez plus jamais, vous faites ça même sans vous préoccuper de ce que vous êtes en train de faire. C'est mécanique, hein, balayer. Et bien il dit, nous sommes les balayures du monde. Et pourtant, c'est la plus grande puissance. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire pour chacun d'entre nous. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, c'est-à-dire les choses viles au regard des perdus, hein, pas au regard de Dieu, bien entendu, et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Celles qui ne sont point, on partage l'évangile aujourd'hui. Il y a des gens qui nous disent, Dieu, on n'a rien à faire de Dieu, des bêtises. Et moi, je les regarde, je leur dis, mais vous êtes fous. Je leur dis, vous êtes complètement fous. Alors, ils disent, non, nous, on a la culture, on est intelligent. Je ne sais pas quoi. Je leur dis, vous êtes fous, vous êtes aveugles et nus, vous êtes perdus. Alors, où ils s'en vont, où ça les intéresse, ça dépend, hein, parce qu'au bout d'un certain temps, des fois, on peut aller plus loin. Mais je ne me laisse jamais démoraliser ou décontenancer par ces réactions. Parce que moi, j'ai eu les mêmes avant que Dieu me sauve. Je ne comprenais pas l'évangile qu'on m'annonçait. Et puis, il va plus loin parce qu'au verset 30, il va dire « Or, c'est par lui, donc par Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ. » Donc, il souligne l'absolue souveraineté de Dieu dans son choix. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit en Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a décidé, il a tout fait pour nous attirer à lui et nous sauver. Et alors, il dit « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. » Ce Christ qui a été fait par Dieu, pour nous, sagesse. Voilà que quand on rentre dans cette intimité avec le Christ au travers des Saintes Écritures et dans cette relation filiale, filiale, puisqu'on est né, on est enfant de Dieu, quand on rentre dans cette intimité avec Christ, il y a une intelligence qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui nous permet de comprendre la Bible, de voir les choses, non plus les choses visibles, mais les choses invisibles, les choses spirituelles. Et voilà qu'on a une sagesse plus élevée que la sagesse des philosophes d'aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup lire. Je suis obligé, par les conférences qu'on me demande, les thèmes qu'on me demande de traiter en conférence, je suis obligé de lire énormément de choses qui sortent aujourd'hui. Et j'aime me tenir au courant de ce que l'homme moderne pense. Mais je me dis, mais quelle faiblesse par rapport à l'évangile. Et je me dis, quelle sagesse dans la simplicité et l'humilité, quelle sagesse d'avoir la connaissance de Christ. D'ailleurs, le livre des Proverbes ne dit-il pas depuis des siècles, le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et c'est évident que la source de toute sagesse et d'intelligence, c'est Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, à cause d'un texte biblique, est-ce que la sagesse est venue après Dieu? Parce qu'il y a un passage dans les Proverbes qui dissocie la sagesse, qui semble dissocier la sagesse de Dieu. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu peux imaginer une seule seconde, une microseconde, que Dieu n'ait pas de sagesse, quoi? Alors il me dit, ah bah oui, dans le fond, oui, bah, Dieu, il n'y a pas plus sage que Dieu, c'est sa nature même. Sagesse, justice, éternité, connaissance absolue, souveraineté, etc. Et il dit, lequel de par Dieu, donc le Christ, a été fait pour nous sagesse. Il est notre sagesse. Plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons pénétrer dans une intimité avec lui, plus nous allons acquérir cette connaissance intellectuelle et concrète, pratique, qui va nous permettre d'affronter toutes les situations, toutes les argumentations, tous les courants de pensée, et on va discerner où est le point faible des courants de pensée et la supériorité de la personne de Christ. Les points faibles, ce n'est pas compliqué. Les points faibles, c'est aucun autre message que l'Évangile ne délivre du péché. Parce qu'il n'y a que l'Évangile qui nous permet de vivre une vie nouvelle. C'est-à-dire ne plus être esclave du péché. Moi, quand quelqu'un m'aborde et me sort toutes sortes de théories, je lui dis, écoutez, c'est très bien, mais comment faites-vous avec tel ceci, telle pensée, telle réaction ? Et il me dit, je me bats avec. Et moi, je lui dis, écoute, le Christ est là pour nous délivrer et nous communiquer sa vie nouvelle. Il n'y a que l'Évangile qui permet ça. Ensuite, la certitude d'être sauvé, quelle philosophie vous apporte ça ? Aucune. Quelle religion vous apporte ça ? Aucune. Ensuite, la certitude d'être enfant de Dieu, enfin toutes les bénédictions, je ne voudrais pas faire la liste, hein, mais toutes les certitudes qui sont les nôtres, toute la réalité de notre héritage et de ce que nous sommes en Christ, ça c'est la sagesse. Parce que oui, on peut reconnaître nos faiblesses et on peut dire oui, j'ai besoin de Dieu. Et là c'est l'immense sagesse, la suprême sagesse, dépendre de Dieu. Et avoir l'intelligence par sa grâce de le connaître. Ça vous remplit intellectuellement et affectivement. C'est l'absolu de Dieu, on appelle ça la grandeur absolue de Dieu qui nourrit notre être tout entier. Et puis il dit, il a été fait pour nous justice. Quand on nous dit, mais dans le ciel, il va y avoir des péchés. Et quand vous allez être dans le ciel, il y aura des péchés. Non, il n'y aura plus de péchés. Mais ils n'arrivent pas à saisir. Alors moi, je ne lis pas. Je lis évidemment l'Apocalypse, où il est, chapitre 20, où il est question qu'effectivement, il n'y a plus de péché. Mais je leur dis, comment tu peux imaginer que quelqu'un qui est né de nouveau ne va pas être transformé, métamorphosé selon la gloire de Christ? Je dis, voilà ce qui va se passer dans le ciel. Oh, ce serait merveilleux. Oh, j'arrive pas à y croire. Bah oui, mais c'est quand même ça. Donc, justice. Qu'est-ce que tu fais avec tes péchés ? Je les confesse, je les ai confessés à Dieu. Ce que je fais, je les reconfesse à Dieu. Il me pardonne. Ah bon, t'es pardonné ? Mais oui. Oh, ça, c'est formidable, alors. Et Dieu ne te resserre pas les choses ? Il ne les rappelle pas ? Je dis non, jamais. Autant la mer est profonde, autant il enfouit nos péchés au fond de la mer, etc. Et puis, il a été fait pour nous sanctification. C'est la marche progressive dans la vie transformée. Dans la vie nouvelle, il est notre sanctification. C'est-à-dire tout ce que les philosophes recherchent, changer l'homme, voilà que le Christ nous permet de changer dans nos corps mortels, d'être transformé, non pas dans la perfection, puisque la perfection on l'aura dans l'au-delà, mais on progresse, hein, comme dit Paul dans la deuxième aux Corinthiens, la première aux Corinthiens chapitre 15, marchons de progrès en progrès, c'est notre sanctification. C'est-à-dire que l'expérience de la parole de Dieu, on est en train de lire un livre, on est en train de le vivre. Alors ça change tout, ça. Et c'est cette folie qui nous transforme, folie à vue humaine qui nous transforme. Et puis rédemption, on est sauvé. J'ai été racheté. Et tu peux me dire tout ce que tu veux, je suis racheté. Un jour, je n'avais pas mon alliance, j'avais dû l'enlever parce que j'ai un problème au doigt. Et alors j'expliquais que j'étais marié, et l'autre me dit, tu n'as pas d'alliance. Et je lui dis, je n'ai pas besoin d'une alliance pour savoir que je suis marié. C'est quelque chose qui s'est produit le 12 septembre 1975. Et voilà, je suis marié. Et tu as beau me dire que je n'ai pas d'alliance et que je ne suis pas marié, je te dis, je suis marié. Et c'est la même chose avec la conversion, avec le salut. Et je suis sauvé. Mais non, c'est des histoires, tu te remplis la tête de c'est ta drogue à toi, machin. Je dis, je suis sauvé, c'est tout. Vous pouvez penser ce que vous voulez, je suis sauvé. Et c'est cela, Christ est notre sagesse, parce qu'il est notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Et du coup, on peut être fier. On peut être fier. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on est fier d'appartenir à un tel Seigneur sans avoir rien fait pour, et être transformé simplement en lui demandant. Pas par nos propres efforts, mais en lui disant, Seigneur, par ta grâce, transforme-moi. Et c'est de cela qu'on est fier. Je reprends ma phrase, c'est pas de cela, c'est de lui dont nous sommes fiers, le Christ. Et on a besoin d'être fiers. Et nous devons être fiers en tant que chrétiens, non pas fier, dont la fierté serait la source, serait produite par l'orgueil, mais fier par humilité, tellement notre Sauveur est merveilleux et parfait et unique et vrai, le véritable. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous conduise cette semaine à pouvoir partager simplement l'Évangile, cette folie de Dieu, et jouir de cette folie pour la gloire de Dieu. Amen.